COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Informations sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
The following is a previously broadcast program.
There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
Bonjour, bienvenue sur En Profondeur, CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec l'auteur Julie Burel.
Cet entretien avec Julie Burel avait lieu au mois de mars 2019 lors de la parution de son livre.
Qui a publié un livre qui s'intitule « Encounters, Uncontested Lands, Indigenous Performance of Sovereignty and Nationhood in Québec ». Je vais l'interviewer, même si le titre du livre est en anglais, je vais l'interviewer en français. Julie Burel est francophone aussi. Alors, nous allons nous entretenir de l'histoire coloniale et des représentations culturelles coloniales dans le soi-disant Québec, territoire occupé de plusieurs peuples autochtones. Donc, on est sur leur terre et on continue de l'être et tout un travail de décolonisation à mener. Et nous avons aussi notre part en faisant face à la colonisation qui provient de nous, qui nous accompagne sur ces terres que nous occupons, dans le sens impérialiste et colonial du mot « occupé ». Et nous allons, avec elle, défaire les scénarios, représentations, performances coloniales, soi-disant Québec, comment on se représente notre histoire, comment cette histoire représentée est en négation ou en diminution de toute la violence coloniale qui continue à sévir sur ces terres et sur les populations autochtones. Donc, nous allons parler de ça. Nous allons aussi parler, j'allais dire performer, d'une certaine façon, mais nous allons parler aussi des performances culturelles autochtones dont Julie Burel fait une étude aussi, en quoi elle aussi conteste ce scénario colonial, cette histoire coloniale du soi-disant Québec.
Nous allons par la suite écouter un extrait d'une entrevue réalisée avec Pierre-Auras Tremblay lors de la parution de son livre « To Shall Forget ». L'entrevue est intitulée « Souveraineté autochtone, résistance à la production de l'oubli culturel au Québec et au Canada », comme le livre qui a comme sous-titre « Indigenous Sovereignty, Resistance and the Production of Cultural Oblivion in Canada ». Vous pouvez retrouver aussi cette entrevue ainsi qu'une entrevue écrite sur niquebecnicanada.anarchia.org, anarchia.org, donc niquebecnicanada.anarchia.org. Vous pouvez tout retrouver ça ainsi que l'entrevue aussi avec Julie Burel. C'est ce que sera notre émission pour aujourd'hui.
Alors, nous allons nous entraîner donc avec Julie Burel. Alors, bonjour, nous sommes avec Julie Burel. Vous êtes bien avec nous?
Oui, j'y suis.
OK, merci. Alors, donc, on va commencer par vous présenter. Est-ce que vous pourriez dire qui vous êtes et pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui?
Oui, d'accord. Alors, je m'appelle Julie Burel. Je suis professeure adjointe dans le département de théâtre et de danse à l'Université de la Californie à San Diego. Je viens de publier un livre qui traite des performances culturelles et du théâtre autochtone au Québec. Et voilà, je pense que la conversation va s'articuler autour de ça.
Comme j'ai mentionné aujourd'hui, nous allons particulièrement traiter du livre dans l'aspect dans quoi il conteste, il critique, il défait le scénario colonial, l'histoire coloniale du Québec, du soi-disant Québec, et aussi visiter les différentes performances culturelles qui sont traitées dans le livre dans ce sens-là. Donc, en commençant, pouvez-vous nous parler du titre et de pourquoi ce titre-là?
Oui. Donc, le livre s'appelle « Encounters on Contested Lands », « Rencontres sur un territoire contesté », entre autres parce que le Québec demeure, malgré le discours officiel, demeure un territoire occupé. C'est un territoire qui est contesté. Donc, il y a des souverainetés qui sont en compétition sur ce territoire-là. Il y a celle, donc, du Québec qui cherche à l'affirmer depuis très longtemps, mais il y a les souverainetés des premiers peuples qui prédatent celles du Québec. Et donc, le livre s'organise autour de ces rencontres-là qui ont lieu sur ce territoire contesté et puis ces rencontres qui sont parfois génératrices de conversations, mais parfois des rencontres ratées ou des rencontres violentes. Donc, le livre s'articule autour de cette notion-là de rencontre.
Juste pour donner un contexte, vous enseignez à l'Université de San Diego, en Californie, mm-hmm. et vous êtes d'origine québécoise.
Oui, oui, oui. J'ai grandi au Québec.
Puis, comment vous arrivez à écrire ce livre-là? Quel est le contexte? Pourquoi?
Oui. Ouais. En fait, c'est un livre qui s'est développé sur plusieurs années, qui a commencé quand j'ai commencé à faire mes études en théâtre à l'Université de Toronto. Je me suis trouvée à prendre un cours avec Lee Miracle, qui est une poétesse de la nation Stolo, mais aussi une grande intellectuelle des Premières Nations au Canada et qui, je pense, est venue parler de questions qui étaient vraiment très importantes pour moi. Je m'étais toujours intéressée à l'aspect politique du théâtre, au potentiel révolutionnaire du théâtre. Et puis, je pense que dans son cours, je me suis mise à me poser des questions sur ce potentiel-là, s'il était appliqué dans ma communauté, donc dans la communauté québécoise, francophone, celle à laquelle je m'identifiais et je m'identifie toujours. Et puis, j'ai été forcée dans ce cours-là à commencer à me poser des questions assez fondamentales. Et puis, par la suite, je suis venue faire un doctorat en Californie et puis j'ai eu la chance de travailler avec des chercheurs qui faisaient partie de la lignée de Frantz Fanon, de penseurs décoloniaux. Et puis, ça m'a donné l'espace et puis le temps pour réfléchir à fond sur ces questions-là. Donc, le livre est vraiment la continuité de ma thèse de doctorat et puis qui a été peaufinée. J'ai rajouté des chapitres et tout, mais ça vient vraiment d'un questionnement profond sur ce que le théâtre et les performances culturelles peuvent nous révéler d'une société. Donc, j'utilise vraiment les performances culturelles et le théâtre comme outils diagnostiques qui nous permettent de vraiment sonder les relations de pouvoir, les structures qui organisent une société, en l'occurrence la société québécoise. Donc, le livre est vraiment à l'intersection, je dirais, des études théâtrales, de ce qu'on appelle les performance studies dans le monde anglophone. C'est un champ d'études qui est un petit peu moins connu dans le monde francophone, mais qui s'intéresse vraiment au théâtre de tous les jours, donc à la façon dont on performe notre identité culturelle, genrée, etc., en lien avec les forces qui façonnent une société. Donc, voilà, donc le livre est vraiment né de ces questionnements-là, et puis de longues entrevues avec des artistes, et puis d'un désir d'aussi participer à cette conversation-là à partir de ma position en tant que chercheuse allochtone, québécoise de souche, et donc profondément impliquée dans ces questions-là.
Est-ce que le recul que vous donne le fait de ne pas habiter au Québec permet plus facilement d'écrire un ouvrage qui est à ce point critique de la culture québécoise?
Oui, je pense que oui. En fait, je dirais que pour moi, le fait d'avoir écrit ma thèse et puis ensuite le livre à partir des États-Unis, qui est un pays extrêmement problématique à plein niveau, mais où les discussions autour de Bien, les examens de conscience, en tout cas dans les départements où, dans lesquels j'ai travaillé, étaient vraiment à la surface. Donc, ces questions-là étaient vraiment posées. Ça m'a permis aussi de les poser à ma communauté, à moi. Je remarque aussi que peut-être les critiques les plus complexes qui sont articulées en lien avec le Québec en ce moment sont articulées par des auteurs qui ne sont pas employés au Québec. Donc, Pierrot Rostremblay, qui était en première partie de votre émission, travaille en Ontario pour le moment. Je pense à Bruno Cornelier, qui est au Manitoba, Isabelle Saint-Amand, qui est en Ontario. Donc, il semble que ce soit plus facile d'articuler ces critiques-là en dehors du Québec. Oui.
Pour entrer dans le cœur du livre, on parle de différentes représentations théâtrales, cinématographiques, littéraires, artistiques. Au tout début du livre, vous entrez plus dans comment est-ce que toutes ces représentations-là, particulièrement québécoises, francophones, jouent sur l'histoire coloniale, comment, et même les scénarios qui veulent se rapprocher, disons, des relations avec les peuples autochtones, mm-hmm. sont des récits qui défont la violence coloniale, qui la nie, qui l'efface mm-hmm. ou qui la diminue grandement.
Oui, oui, tout à fait. Deux auteurs que je trouve particulièrement intéressants pour aller au cœur de ces questions-là, c'est Kay Wen Yang et Yves Tuck, qui ont écrit un article qui est assez important dans les études des coloniales et qui parle de ce qu'ils appellent les « settlers move to innocence », donc les espèces de stratégies pour s'auto-innocenter en tant que membre de la communauté colonisatrice. Et puis je pense que ça m'a été très utile pour arriver à comprendre ce qui se passait dans certaines représentations culturelles au Québec qui, en apparence, semblaient être des gestes de réconciliation ou d'approche de l'autre, mais qui, en bout de ligne, servaient à resolidifier la trame narrative du Québec et à, quelque part, fermer le dialogue ou les questions posées par les Autochtones ou se les approprier. Donc, dans certains cas, on assiste au Québec en ce moment à une montée fulgurante d'un discours métissé qui semble dire que les Québécois de souche sont en fait métissés et qui viennent revisiter le passé en Nouvelle-France avec un certain romantisme qui essaie de dire que finalement la Nouvelle-France c'était un colonisateur soft qui était beaucoup plus intéressé au métissage, qui s'était épris des femmes autochtones et donc que les Québécois ont toujours été métissés et qu'il suffirait donc de s'en souvenir pour finalement arriver à être éclairé par rapport à la situation. On voit ça dans des films comme L'Empreinte qui sont vraiment qui poussent cette thèse-là de façon assez ouverte. On le voit dans d'autres manifestations au Québec. On voit une montée assez fulgurante de nouvelles nations autochtones métisses qui cherchent à être reconnues avec ce statut-là. Donc, il y a vraiment... puis dans ce mouvement vers l'auto-métissage, donc c'est pas l'auto-métissage, mais cette...
auto-autochtonisation.
Voilà, merci. Il y a un geste d'effacement complet des Autochtones. C'est une façon de s'approprier ce terme-là et donc de s'affirmer comme étant nous-mêmes autochtones au Québec. Et donc, quand on devient en relation de compétition en lien avec cette autochtonie-là, il y a vraiment c'est une continuation de la logique coloniale. Quand on pense à ce que Patrick Wolfe a écrit sur le colonialisme de peuplement, il dit qu'à la base, c'est la stratégie primordiale, celle qui organise la création de ces colonies, c'est l'effacement, la destruction des cultures autochtones. Ben, quand on se dit nous-mêmes autochtones et qu'on essaie d'effacer l'appartenance des autres. Il y a quelque part où ça continue la logique de la colonie de peuplement. Donc ça, c'est une des choses que j'observe dans un des chapitres de mon livre, en particulier autour du film L'Empreinte, là.
En quoi ce récit-là, il est faux? Ben, moi, je sais qu'il est faux, mais genre, pour le commun des mortels, mm-hmm. Comment vous leur expliquez que ce récit-là, il est faux ou mensonger?
Ben, toute nation, en fait, toute communauté se définit à partir de grands récits fondateurs, de grands mythes qui sont racontés sous toutes sortes de formes. Le Québec, depuis longtemps, s'est créé toute une trame narrative nationale autour de certains faits historiques et en a oublié d'autres quand ça faisait son affaire. Donc, ce qu'on voit beaucoup en ce moment et depuis longtemps, c'est une réécriture du passé qui favorise ou qui priorise en fait l'ère où les francophones ont été colonisés par les Britanniques et qui, en même temps, efface ou minimise le rôle colonisateur du Québec et sa complicité par la suite dans la colonisation, dans le projet canadien de colonisation. Donc, et ça, c'est articulé à tous les niveaux, dans toutes les strates de la société, dans l'éducation qu'on reçoit, dans le type de projets artistiques qui sont représentés sur scène. Ça devient, les discours nationaux, ils sont conjugués sous toutes sortes de formes, tant dans l'éducation que dans les projets de loi, que dans les commémorations, ce qui est commémoré versus ce qui ne l'est pas, qui sont nos héros. Donc, ce qu'on voit au Québec depuis très longtemps, c'est un grand investissement dans cette trame narrative-là qui innocente le Québec quelque part et qui fait que les francophones sont positionnés comme marginalisés au même titre que les autochtones presque à certains niveaux. Eux aussi, les Québécois, dans la trame narrative, ce qu'on entend, c'est que les francophones ont fait face à d'immenses défis, à des tentatives d'assimilation qui sont réelles, on peut pas les nier, mais qui ne sont pas du même ordre que celles qui ont été vécues par les Autochtones. Mais on sent que dans la trame narrative défendue par le Québec, il y a un grand investissement à rendre cette marginalisation-là égale à celle des Autochtones, ou en tout cas de la positionner d'une façon qui innocente le Québec. Ouais.
Un des textes dont vous parliez, c'est « Decolonization is not a metaphor ».
Oui, voilà.
Mm-hmm. La décolonisation n'est pas une métaphore pour traduire en français, mais à partir de ce texte-là, est-ce qu'on pourrait dire que les Québécois ont été colonisés? Parce que ça me semble plutôt critiquer le fait aussi que, genre, les colons prétendraient être colonisés.
Ah oui, dans ce sens-là. OK, pardon.
Ils ont eux-mêmes une origine beaucoup plus coloniale.
Oui.
Même si, comme il dit, on ne peut pas nier l'oppression qu'il y a eu, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de colonisation des Québécois?
Voilà, c'est une très bonne question. Puis une sur laquelle j'essaie de me pencher dans le livre, je pense que... et là-dessus, je m'inspire beaucoup d'un de mes professeurs qui s'appelle Frank Wilderson et qui parle de grandes familles structurelles. Et puis je pense que, quelque part, les tensions entre le Canada anglais et les Québécois se passent à l'intérieur de la grande famille des colonisateurs. Donc, c'est une dispute dans la famille. Alors que si on observe les peuples autochtones, il n'y a pas eu d'oscillation entre colonisateurs et colonisés. Ils ont toujours été du côté des colonisés. Alors, je pense que effectivement, il y a dans ce terme-là, dans cette appropriation du terme colonisé par les Québécois, il y a quelque chose de faux. Oui, ils ont été marginalisés à l'intérieur de cette famille de colonisateurs, mais on peut pas parler d'un statut de colonisé au même titre que celui des Autochtones ou d'autres d'autres populations colonisées dans le monde. D'ailleurs, quand Frantz Fanon et Jacques Mémy ont mis de l'avant leur grande théorie décolonisatrice dans les années 50-60, une de leurs grandes surprises, ça a été de voir les francophones du Québec adopter leur théorie et la rendre leur, comme si, quelque part, Fanon et Mémy parlaient d'eux. Et puis, ça a été une grande surprise, parce qu'au début, Mémy disait, ben non, vous êtes des... Les francophones du Québec, vous êtes des colonisateurs et non pas des colonisés. Et puis, il y a donc eu vraiment certaines tensions à ce niveau-là. Là. Ouais.
Dans ce livre aussi, au tout début, vous parlez aussi du fameux livre de Pierre Vallière, dont on ne va pas dire le nom, quand vous poursuivez votre exemple dans votre livre, qui fait une comparaison entre les Canadiens français ou les Québécois et les Afro-descendants ou les Noirs. Qui paraît aussi mensongeur.
Oui, là encore, il y a une analogie qui ne tient pas la route. Puis d'ailleurs, c'est très surprenant qu'encore aujourd'hui, on l'a vu ressurgir dans le débat autour de Robert Lepage l'été dernier, mais que cette analogie-là soit encore défendue à certains niveaux. Elle n'a jamais tenu la route. On ne peut pas comparer... la situation des Afro-Américains et celle des Québécois. C'est une analogie qui est grossière et erronée. Mais ceci dit, elle a tenu la route pendant longtemps et on peut voir à quel point justement ce type d'analogie-là qui cherche à innocenter le Québec continue à avoir énormément d'emprise. Ouais.
Puis une des choses que vous dites au début aussi par rapport aux colonisations canadiennes et québécoises, c'est comment elles se renforcissent aussi. Puis là, vous donnez l'exemple de la crise d'Oka, ou la soi-disant crise d'Oka.
Mm-hmm.
Comment est-ce que ça vous apparaît? Que dans le fond, ces colonisations-là qui sont prétendument en opposition ou en conflit, en réalité, beaucoup plus se renforcissent.
Ben, en fait, on en a un exemple assez classique dans les événements d'Oka, qui d'ailleurs, en suivant l'exemple de plusieurs chercheurs autochtones, j'appelle pas la crise d'Oka parce que, comme le disent plusieurs chercheurs autochtones, Audra Simpson et d'autres, la crise, c'était l'état d'esprit des non-autochtones. Les autochtones, c'était une continuation de la même oppression qui durait depuis toujours. Donc, le scénario de crise, c'est vraiment quelque chose qui a été imposé par les médias non-autochtones. Mais ce qu'on voit très clairement dans les événements d'Oka, c'est que si le discours national tel que mis de l'avant par le Québec était vrai et vécu, on aurait pu voir le Québec s'aligner avec la résistance à Oka, la résistance Mohawk, j'entends, et dire effectivement, on a ici un ennemi commun, le soi-disant oppresseur canadien-anglais, et allions-nous. Mais ce qu'on a vu, au contraire, c'est un appel à cette solidarité colonialiste quand le Québec s'est tourné vers le Canada anglais pour obtenir des renforts. Donc, on a vu cet alignement-là se jouer de façon très claire autour de la situation à Oka. On n'a pas vu une solidarité entre les peuples autochtones et le Québec, au contraire. Donc, ça rend ça encore plus, disons, problématique quand on voit par la suite cette espèce de mouvement vers une déclaration d'un métissage depuis toujours. S'il y avait eu un métissage depuis toujours, il y aurait eu une reconnaissance de ce qui se passait dans les communautés Mohawk comme étant... de l'ordre de la même lutte que celle que, soi-disant, le Québec est en train de mener, quoi.
Alors, on parlait avec Julie Burel avant la pause. Vous êtes toujours avec nous?
Oui, toujours.
Donc, on va parler des discours. On a parlé du métissage et des différentes façons de revoir l'histoire d'une manière à encourager, à quelque part, la colonisation du Québec. Mais en fait, certainement. Donc, mais comment est-ce que ce sont véhiculés? Quels sont les véhicules dont vous parlez dans votre livre particulier qui ont ce lien-là avec l'histoire?
Ben, ils sont multiples, je dirais. C'est certain que cette trame narrative-là, elle est véhiculée par l'éducation, dans le type de recherche qui se fait, mais aussi dans les produits culturels qui sont consommés au Québec, qui sont mis de l'avant, qui sont priorisés au Québec. Donc, je dirais que c'est un peu comme ça, d'ailleurs, que toute la structure qui légitimise le colonialisme de peuplement s'installe et devient la norme. C'est que cette structure-là, elle est solidifiée dans notre éducation, dans ce qu'on reçoit à la petite école autant qu'à l'université. Et puis, je pense que vous faites un peu allusion au type de recherche qui se fait au Québec par des anthropologues. Et puis, je suis pas là du tout pour discréditer leur travail, au contraire, mais je pense qu'on n'est jamais neutre ou impartial en tant que chercheur et qu'il y a certainement... disons que ce qui se fait au Québec est le type de travail pour essayer d'aller faire une excavation de quelque chose de positif ou de romantique dans le colonialisme français, ça n'existe pas ailleurs. C'est vraiment très... Ça se passe beaucoup dans le monde intellectuel québécois, mais dès qu'on sort du Québec, c'est beaucoup plus complexe comme engagement avec cette période historique-là. Alors qu'au Québec, on voit beaucoup d'ouvrages académiques qui viennent à la défense d'une certaine thèse québécoise. Et puis, ça fait partie de l'examen de conscience qu'on doit faire en tant que chercheur académique. À quel projet on veut participer. Je pense qu'il y a certainement certains biais dans la façon dont certaines recherches sont mises de l'avant, quoi. Ouais.
Vous allez parler aussi de l'empreinte, de Québécoisie, de différents autres récits. Mm-hmm. Dans ces récits-là sont aussi cautionnés, à quelque part, par des intellectuels québécois. Que vous nommez aussi, parce que je pense que c'est quand même important qu'on les nomme, parce qu'ils sont très omniprésents au Québec. Mm-hmm. Vous parlez entre autres de Serge Bouchard. J'aimerais ça vous entendre sur la critique que vous faites de Serge Bouchard dans le livre.
Oui. C'est toujours un peu difficile, parce que Serge Bouchard est un personnage extrêmement sympathique, qui est très aimé au Québec, mais qui, quelque part, je pense, est devenu... quelqu'un qui est en train de rendre légitime toute une réécriture de l'histoire. Entre autres, il est l'espèce de personne ressource dans deux films que j'examine dans mon livre, L'Empreinte, mais aussi Québécoisie. Et dans les deux cas, il se fait l'avocat vraiment très convaincu de ce qu'il appelle l'espèce de métissage au début de la colonisation. Et si on l'écoutait, on serait convaincu que... On parlait d'un phénomène extrêmement répandu, que lors des débuts de la colonisation, il y avait un métissage complet et que les choses étaient très roses et que l'espèce de rencontre qui s'est faite au début de la colonisation en était une égalitaire, où il n'y avait pas un projet d'appropriation des territoires autochtones. Bon, à l'entendre, c'est vraiment c'est une grande histoire d'amitié, quoi. Et puis, les choses, les faits, les données généalogiques, génétique, les données statistiques, les relevés de mariage de l'époque, il n'y a pas grand-chose qui soutient vraiment son travail ou cette version-là de l'histoire. Ce qui fait que c'est important de remettre ça en question puis de poser des questions sur ce qui... sur la mission qu'il poursuit quelque part, parce que on voit quelqu'un comme Daryl Leroux qui, depuis des années, est allé fouiller les données généalogiques de la Nouvelle-France et qui, en faisant aussi appel à toute une banque de données génétiques qui fait partie du monde universitaire québécois, en arrive à dire, mais ça ne se défend pas comme trame narrative du passé. Et pourtant, Serge Bouchard est devenu la personne clé à aller interroger dès qu'il est question de cette relation entre les premiers peuples et le Québec. Mais et là-dessus, je pense que Québécoisie fait un meilleur travail en mettant Serge Bouchard en conversation avec Pierrot Ross-Tremblay, qui lui vient questionner cette trame narrative-là de Serge Bouchard et qui dit à un moment dans le film, quelque part, le Québec est assis sur les premiers peuples et il lui demande, puis ça va, est-ce que ça va en dessous? Ben non, vous êtes assis sur nous, quoi. Et puis, donc je pense que dans Québécoisie, au moins, il y a un désir de mettre ces deux voix-là en conversation, ou en tout cas de les mettre une à côté de l'autre pour que il y a peut-être une ébauche de réflexion qui se fasse, mais dans l'empreinte, c'est pas là. Donc, on reste avec cette image-là que cet anthropologue chevronné-là, qui est une figure très importante au Québec, nous dit que, voilà, telles étaient les choses dans le passé et que si seulement on s'en souvenait et qu'on revenait à cette espèce d'état de jardin d'Éden ensemble, tout pourrait mieux aller, mais... c'est pas la réalité. Et puis ça oublie aussi que entre ces quelques la première période de la Nouvelle-France et ce qui s'est passé aujourd'hui, on a les pensionnats, on a toute une série de lois extrêmement violentes. On a une violence sanctionnée par le Canada et le Québec, malgré ce qu'en disent bien des personnes. Mais donc il y a vraiment une vision très je dirais biaisé, quoi, de la réalité. Ouais.
Donc, nous sommes toujours à CKUT 90.3 FM à Montréal, soi-disant Montréal. Donc, on parlait de Serge Bouchard, mais on pourrait parler de plusieurs autres personnes qui sont très influentes au niveau intellectuel, soi-disant Québec. Vous parlez aussi du contrôle de l'histoire dans l'édition, de comment l'édition de l'histoire sur les Autochtones est contrôlée encore très, très majoritairement par les éditeurs francophones blancs.
Oui, oui, oui. Puis c'est le cas, c'est pas seulement au Québec, mais je dirais que les choses bougent plus vite ailleurs au Canada anglais, aux États-Unis, où on voit justement un changement à ce niveau-là pour que la recherche qui se fait et qui se publie soit sanctionnée et lue et évaluée par des intellectuels, des chercheurs autochtones et pour qui les enjeux sont vécus et très importants. Donc, mais ce qu'on sent, c'est qu'au Québec, il y a encore... Ça n'a pas vraiment bougé encore. Et on peut voir aussi qu'au niveau des programmes universitaires, le Québec est un peu, et quand même plusieurs années en arrière par rapport à ce qui se fait en Colombie-Britannique, par exemple, ou au Manitoba, dans l'embauche de professeurs autochtones pour enseigner les études autochtones, ou bien d'éditeurs autochtones. Et puis, donc, il y a encore quelque part une... un certain contrôle, voilà, de ce qui sort et de ce qui peut être dit, ouais.
Mais dans une grosse partie du livre, vous parlez par contre de toutes les performances culturelles, artistiques venant des Autochtones eux-mêmes, elles-mêmes.
Oui, oui.
Et aussi en quoi elles remettent aussi en question cette histoire coloniale. J'aimerais que vous entriez là-dessus. Je sais qu'on... On n'aura pas le temps de finir là-dessus. De toute façon, on finira sur rien aujourd'hui parce que c'est quand même trop profond pour pouvoir finir sur quelque chose, mais j'aimerais ça au moins que vous en parliez.
Oui, bien sûr, puis avec plaisir, parce que c'est la partie du livre, je pense, moi, qui m'a fait le plus plaisir d'écrire. Donc, si les deux premiers chapitres sont vraiment autour de... je dirais, de rencontres ratées ou en tout cas pas très bien réussies entre des artistes allochtones et des questions autochtones. Les autres chapitres se penchent vraiment sur le travail d'artistes et d'intervenants autochtones qui, eux, font un travail de fond et depuis longtemps pour parler à leur communauté, pour vraiment... questionner les prémices de la nation québécoise pour constamment réaffirmer leur souveraineté intellectuelle, culturelle, territoriale au Québec. Donc, je me penche, entre autres, sur le théâtre de Ondinouk, qui est une compagnie théâtrale qui œuvre depuis plus de 30 ans à Montréal et qui a été cofondée par, entre autres, Yves Séouy-Durand de la nation Huron-Wendat et Catherine Jonca, et puis qui, depuis 30 ans, fait un théâtre de création absolument extraordinaire, mais qui continue à être un peu relégué aux marges de l'histoire du théâtre québécois, alors que, à mon sens, c'est un théâtre qui sonde l'âme de la société québécoise, mais aussi de toutes les Amériques, et qui va vraiment se poser des questions sur cette première grande blessure-là qui est issue de cette rencontre violente entre les colonisateurs et les peuples autochtones, puis qui se pose la question très clairement, comment on va de l'avant, comment on en guérit, comment, pour les peuples autochtones, est-ce qu'on peut aller se réapproprier ce patrimoine culturel-là qui, parfois, a été fracturé et parfois a été transmis un peu underground pour que le savoir continue à se transmettre, mais ça s'est fait dans des conditions difficiles. Donc j'ai un chapitre qui porte sur Ondinouk et sur en particulier le travail de rapatriement culturel qu'ils font. J'ai aussi un chapitre qui parle de films et de cet espace visuel-là, comment le cinéma a ouvert tout un espace de représentation pour les peuples autochtones, ce qu'on peut voir avec le Wapikoni Mobile, entre autres, mais avec le film de le premier long métrage autochtone francophone au Québec qui a été réalisé par Yves Séouy-Durand de Ondinouk, qui était une adaptation de Hamlet dans un contexte d'une réserve autochtone fictive. Et puis, donc, je me pose beaucoup la question sur qu'est-ce qui est possible dans le monde du cinéma? Qu'est-ce que ça permet comme geste d'auto-représentation? Ce qu'on voit beaucoup, c'est que depuis très longtemps, les représentations de personnages ou de réalités autochtones qu'on voit sur les écrans, sur la scène théâtrale ou à la télé sont très stéréotypées, très réductrices. Et puis, qu'on voit dans le Wapikoni Mobile ou dans le film d'Yves Séouy-Durand, c'est une prise en charge de cette représentation-là, puis et vraiment la création de scénarios extrêmement complexes et riches qui parlent de toutes les grandes problématiques ou de plusieurs, en tout cas, problématiques autochtones vécues à l'heure actuelle. Donc, ce qui ressort vraiment de ces trois chapitres-là, c'est à quel point, depuis toujours, et ça reprend aussi ce que Pierrot Rostremblay disait au début de l'émission, c'est que il y a toujours eu une continuation de ces récits autochtones-là, de cette façon de comprendre le monde, de cette façon de s'organiser, et puis que ce sont des récits qui sont profondément contemporains parce qu'ils sont encore qui sont encore dits, sont encore performés, sont encore utiles. Donc voilà, le reste du livre se penche vraiment sur ces performances-là et vient examiner en quoi est-ce que ces performances-là proposent une autre façon de lire ce que pourrait être une nation ou un projet national ou en tout cas un projet sociétaire sur le territoire qui s'appelle actuellement le Québec, ouais.
Un des beaux exemples, qui n'est pas dans votre livre, mais qui est quand même sur votre blog, dont vous parlez, c'est la revue numéro 321 de la revue Liberté.
Oui.
Qui est un numéro dirigé par Pierrot Rostremblay, donc sociologue Guinou, avec Nawel Hamidi et Daryl Leroux.
Oui.
Qui offre justement une histoire qui est dirigée parce que la revue l'est, essentiellement par des Autochtones.
Oui, voilà. Non, puis ça a été vraiment un honneur de faire partie de ce numéro-là parce que c'était, ben d'une part, ça s'est fait dans un plaisir et une collaboration absolument merveilleuse, mais aussi ce qu'on voit émerger de ce numéro spécial-là, c'est ce qui est possible quand il y a une réelle écoute et un réel désir d'aller à la rencontre de l'autre. Ça se peut, mais il faut faut mettre de côté nos a priori, puis être prêt à remettre en question peut-être ce qu'on compte comme étant la norme inquestionnable, quoi. Donc, autour de la table de ce numéro spécial-là, il y avait la question, non pas comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec ce qui existe actuellement, mais comment est-ce qu'on peut penser à quelque chose de différent pour le futur qui repartirait sur d'autres bases, qui serait profondément décolonial. C'est un autre projet entièrement, ouais.
Et de notre part, en tant que Québécois, Français ou francophones de souche, soi-disant, parce que j'aime pas oui. trop l'expression, mais de toute façon, l'expression est toujours là dans le livre en étant une critique de l'expression oui. elle-même.
Le terme n'est pas très chouette, je l'avoue.
Moi, j'aime mieux dire Québec-Français, Québécois-Français oui. de souche, parce que ça fait français de souche.
Oui.
Mais bon, quel est notre rôle à confronter ces récits-là? Qu'est-ce qu'on peut faire, oui. nous? Oui. Vous êtes sûrement posé la question de multiples
oui.
fois.
Oui, absolument. Puis je pense que à la commission Vérité-Réconciliation, quand il y a eu les audiences à Montréal, il y avait un panel et puis son nom m'échappe soudainement. En tout cas, une figure de proue de la résistance Mohawk qui avait dit, vous savez, ça commence par vous. On est là-dedans ensemble. On est tanné de vous éduquer, quoi. Et puis, je pense qu'il faut prendre ça à cœur et se dire que le labeur de s'éduquer et d'éduquer les autres ne peut pas toujours être sur, ne peut pas toujours revenir aux peuples autochtones. Ils sont déjà chargés de tellement de projets et ils sont marginalisés à plein d'égards. Et la responsabilité de s'éduquer soi-même, c'est un geste de départ qui est très important. Donc, d'aller se poser des questions, d'aller s'éduquer sur la réalité, la situation politique des peuples autochtones, mais aussi de notre responsabilité en tant que les traités, ça se fait en deux parties, et puis on est l'autre partie des traités. Donc, il faut en être conscient, puis aller vraiment s'éduquer à ce niveau-là. Moi, je suis éducatrice, j'enseigne à l'université. Pour moi, ce projet-là fait partie de toutes mes structures de cours, même quand j'enseigne des cours qui ne sont pas nécessairement, qui ne portent pas nécessairement sur le théâtre autochtone, mais quand j'enseigne le théâtre européen, je parle de colonialisme et je situe ce théâtre-là dans cette histoire-là. Donc, de ne pas perdre de vue ce qu'on peut faire à tous les niveaux dans notre occupation quotidienne pour garder ce dialogue-là actif. Donc, pour moi, ça. Puis c'est mineur, bien sûr. Là, je m'imagine pas que je vais changer le monde, mais je pense que en touchant le développement intellectuel de mes étudiants, en semant des petites graines qui vont peut-être pousser puis donner d'autres résultats, ben j'espère que je contribue un peu à ce dialogue-là, quoi.
Bien, merci. Le livre s'intitule Encounters on Contested Lands, Indigenous Performance of Sovereignty and Nationhood in Québec. Est-ce que c'est pas mal disponible dans les librairies au Québec en ce moment?
Je ne sais pas, mais je pense que ça. En tout cas, c'est disponible sur Amazon et je pense que Renaud Bré peut le commander, mais je ne suis pas complètement certaine. Ça vient tout juste de sortir, donc je ne suis pas absolument certaine.
Et est-ce qu'il y a eu une réception du livre ici?
Oui, en fait, j'ai eu certaines approches pour parler de traduction. Donc, ça se peut que ça sorte en français éventuellement, mais c'est encore trop tôt pour dire. Là, mais oui, effectivement. Puis, il commence à y avoir certaines réponses au niveau universitaire, tout ça. Mais c'est toujours lent, ces choses-là. Le monde académique, ça va à un certain rythme.
Et à part moi, est-ce qu'il y a eu d'autres approches médiatiques de votre livre? Au Québec?
Au Québec, non. Pas encore, non.
OK. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pendant toute l'heure.
Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
Ah, ça fait vraiment plaisir aussi.
Vous êtes toujours sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. Nous allons maintenant écouter cet extrait d'entrevue avec Pierre-Aurore Tremblay sur son livre To Shall Forget, Indigenous Sovereignty, Resistance and the Production of Cultural Oblivion in Canada.
On va entrer plus spécifiquement sur le livre maintenant. T'écris que c'était un livre d'une décennie. Ça t'a pris une décennie pour faire les recherches et l'écrire?
Oui, faire les recherches et puis vivre aussi. Quand tu écris ou tu réfléchis sur ta propre communauté, c'est pas les mêmes processus que d'arriver, je sais pas moi, de Montréal ou de Paris, peu importe, puis d'arriver dans une communauté, puis après ça, tu repars, et puis c'est très différent. Puis les enjeux sont différents, la façon de faire aussi, puis quand ça te touche toi comme personne, ta famille, parce que nous, c'est une petite communauté, là, on est miniature, pas miniature, mais je dirais une très petite communauté qui, avec le temps, est devenue comme une seule famille. Alors, avec tous les enjeux qui viennent avec. Alors, c'est très particulier, là, comme contexte. Et puis, pour moi, c'est important de publier aussi pour les futurs chercheurs, surtout les jeunes chercheurs autochtones, mais pas seulement, pour partager l'expérience, ça peut les inspirer, puis donner des outils, des clés pour mieux faire la prochaine fois, parce que c'est toujours des limites à ce qu'on fait. Puis on apprend plus souvent de nos erreurs que de nos bons coups. Mais pour moi, le livre, sa grande valeur est dans les récits que j'ai faits avec les aînés, puis tous ceux qui ont participé à la guerre du saumon, là. Les gens ont été très généreux, puis je veux leur rendre hommage. C'est une façon d'honorer leur mémoire, ce qu'ils m'ont transmis, puis aussi leur héroïsme dans cette guerre de résistance, cette guerre du saumon, où est-ce qu'il y était un petit groupe face à la société, finalement, face à des groupes hostiles, face au gouvernement. Et puis les gens se sont tenus, se sont serrés les coudes, et puis ont réussi d'une certaine façon à bloquer, à résister, mais aussi ont été blessés, parce que ça fait partie de la condition des premiers peuples au Canada, que nos résistances sont violemment répressées d'une manière ou d'une autre, et que la seule façon de gagner, c'est de s'anéantir, c'est de renoncer. Alors, c'est tout un mécanisme, ce régime colonial, pour miner toute forme de résistance autochtone depuis 150 ans. Il faut le dire, en partant. Mais je me suis intéressé à la mémoire qu'on avait de cette résistance-là. Et je me questionnais sur pourquoi on n'en avait pas entendu plus parler, les gens de ma génération, là, à l'époque, quand j'avais 30 ans, et pourquoi on n'était pas trop au courant, là, de cet événement qui avait été le plus marquant pour la vie de ceux de la génération précédente. Alors, je trouve ça énigmatique. Énigmatique comme phénomène. Alors, j'ai décidé d'aller voir chez la génération précédente qu'est-ce que ça avait représenté pour eux, qu'est-ce qu'ils avaient vécu, qu'est-ce que ça représentait pour eux et qu'est-ce que le fait de se replonger dans cette mémoire de la guerre du saumon, comment ça éclairait le présent de notre communauté. Alors, je m'en souvenais de m'intéresser plus à la relation que la communauté avait avec le passé que le passé lui-même. Alors, c'est devenu un travail de plus de mnémo-histoire, je peux dire, mais basé sur l'histoire orale, sur les récits, les mémoires autobiographiques de 20 personnes qui ont participé, d'une dizaine d'autres personnes qui n'ont pas été interviewées, enregistrées, mais qui ont participé, et les gens de ma génération, mes cousins, ma famille, des gens que je connais chez nous, et moi-même, ma propre expérience. Alors, c'est tout ça là, qui est rassemblé dans le livre.
Tu écris de long en large sur la culture de l'oubli et sur la fabrication de la mémoire et de la fabrication aussi de l'oubli.
Oui.
Comment ça a façonné les CIPET? Qu'est-ce qu'il en est devenu aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'il en est devenu aujourd'hui?
Ben, à la fois historiquement, puis au niveau du présent.
Historiquement, si on commence à porter un regard sur nos trous de mémoire, sur l'oubli, je me suis intéressé aux discontinuités, comment on en est arrivé, par exemple, je prends le cas de la guerre du saumon, mais je remonte à beaucoup plus loin, comment on en est arrivé à ces ruptures de transmission culturelle, puis avec le temps, ce que j'appelle un genre d'anémie identitaire, de moins connaître, de moins être en contact avec le passé. C'est des phénomènes qui sont vécus par tout le monde, mais nous, je réussis là, pour des raisons historiques, de contexte. Ça fait 400 ans qu'on a des contacts, hein? Si on était un peu au front de ces contacts-là. Et puis, on a vécu peut-être des stades plus avancés de colonialisme et de colonialisme dans ses formes psychologiques, peut-être à cause de la proximité avec le Québec, puis la culture québécoise et tout ça. Une autre forme d'hégémonie culturelle avec la mémoire sélective québécoise qui, à un moment donné, en est venue à remplacer notre propre conscience et nous, rapport avec nos savoirs et nous, tout ça. Puis tout ça, là, fait que je me suis intéressé à ce rapport-là. Hein. Mais le but n'était pas d'étudier le Québec ou de critiquer le Québec, mais j'ai dû le faire pour essayer de trouver un espace, une distance par rapport au Québec, parce que le Québec prédominait beaucoup là, dans l'esprit puis dans la communauté, ce qu'on appelle la culture québécoise, la mythologie là, coloniale, si je peux dire. Alors, le défi, c'est tout le temps de saisir le présent aussi. Là, on parle de quand? On parle-tu d'il y a 10 ans? On parle-tu d'il y a 20 ans? On parle-tu d'aujourd'hui? Là, si on parle du moment présent, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est où est-ce qu'on en est? Ben, c'est beaucoup, beaucoup de déterminants de ça. Des déterminants extérieurs, hein? On en a parlé, là, toutes les politiques génocidaires de la couronne canadienne, et puis les pensionnats, la mise en réserve, tout ça ensemble, d'un côté. De l'autre côté, l'imposition, là, dans le cas des CIPET, la prédominance du Québec, et puis de ses politiques, son hégémonie culturel, toutes les formes de racisme qui ont pu être vécues par les Innus. Ensuite, on parle des pensionnats, tu sais, la brisure, que c'est la cassure que ça a amené au niveau culturel. J'invente rien en disant ça, là, la transmission, mais nous, il faut vivre avec ces conséquences-là, puis essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente pour les générations qui suivent, tu sais. Et ensuite, bon, toute la logique économique dans laquelle on vit, mais ça fait en sorte que la conscience Innu, la langue Innu, dans le cas des Sipit, tout ça ensemble, ben, était marginalisé de plus en plus jusqu'à devenir comme éloigné, d'avoir une certaine distance par rapport à ce qu'on pourrait définir comme étant Innu, cette conception-là du monde. Alors, c'est cette dimension-là intérieure qui m'intéresse plus, parce que je pense que c'est là qu'on peut agir, puis c'est ça qu'il faut. On a une responsabilité comme chercheurs autochtones, c'est de regarder dans nos propres communautés. Et encore une fois, la question des femmes est centrale, parce que les femmes ont été utilisées pour favoriser l'assimilation. Est-ce que les femmes autochtones souvent devaient partir de la communauté et les femmes non autochtones arrivaient dans la communauté, et puis tout ça a engendré beaucoup de ruptures de transmission, transmission culturelle, et je dirais des aspects de misogynie, c'est-à-dire que la prédominance des hommes, que ce soit au niveau des structures de décision, décisionnelles, au niveau politique, fait en sorte qu'on va plus entendre un récit et puis on va moins entendre une autre. Ça crée un déséquilibre et ça finit qu'on entend juste la parole des hommes, et des hommes de pouvoir en particulier. Alors ça, c'est des phénomènes qui sont vécus là, ben chez nous, entre autres, là, mais ailleurs aussi. Alors, je trouvais ça pertinent d'en parler.
Tu nous parles dans ce livre-là aussi beaucoup de la tyrannie intérieure dans les Sipit, mm-hmm. et aussi du lien à cette coupure avec l'histoire. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
Bon, d'abord, c'est ta géographie variable, hein? Tu sais, c'est pas tout le monde qui... Les Sipit, c'est pas une masse, là. Tu sais, c'est des personnes. Il y a plusieurs générations, il y a plusieurs genres, il y a différentes personnes. Il y a des gens qui vivent dans la communauté, il y a des gens qui vivent à l'extérieur. Maintenant, c'est près de 75% des membres qui sont non-résidents. Alors, tu sais, je reste assez complexe comme phénomène. Je veux pas réduire, hein, puis je veux pas représenter non plus, là. Je veux faire attention pour pas tomber dans des fausses représentations. Mais dans le livre, j'ai porté une attention particulière aux représentations des Sipit, justement, dans les médias, dans la recherche, et puis essayer de comprendre cette image qui était construite d'un côté versus qu'est-ce qui était vécu à l'intérieur. Puis c'est pour ça que c'est les récits des aînés qui m'ont vraiment aidé le plus, parce qu'ils étaient très courageux, puis ils disaient les choses comme elles étaient. Et puis ils mentionnaient des phénomènes qu'on vivait à l'intérieur que moi je voyais pas nécessairement parce que j'étais trop jeune, peut-être pas assez expérimenté. Comme plusieurs de ma génération, j'avais pas entendu assez d'histoire de la communauté. Et puis avec le temps, ces choses se sont révélées. Et des formes de contrôle, des formes de colonialisme psychologique et de tyrannie intérieure, si on peut dire. Là. Mais c'était pas l'objet au départ, non, encore une fois. Mais un des déterminants de l'oubli était justement les rapports de pouvoir à l'intérieur de la communauté. Puis ça, c'était pour moi une découverte tragique d'un côté, mais en même temps qui me semble très importante pour pouvoir aller vers d'autres choses. Si on veut avoir une continuité culturelle, ben il faut faire face à ces barrages intérieurs, à ce qui nous empêche de nous rappeler.
Tu nous parles aussi dans ce livre-là de la place envahissante des Euro-Québécois dans les structures même de pouvoir du Conseil de la bande des Sipit, mais aussi dans l'histoire, toute la violence qui a été aussi commise par les Euro-Québécois sur les Innus par rapport à la guerre du saumon, et toute une histoire qui vient avec ça et qui ne remonte pas à hier ni à la guerre du saumon.
Ben oui.
Mais tu peux nous parler de cette présence?
Ben, c'est très pénible d'en parler, hein, parce que c'est des membres de notre famille, c'est très proche. La relation Sipit, c'est devenu, là, avec le Québec, avec le village des Escoumins, avec les alentours, parce qu'avec le temps, il y a eu beaucoup de mariages, hein, dans toutes les familles, soit c'est un parent, soit c'est un cousin, soit c'est un conjoint. Alors, c'est des relations de très grande proximité.
On parle de structure, puis de peuple en général. On nommera pas de nom aujourd'hui.
Oui. Non. J'essaie de pas de nommer de nom dans le livre, mais il y a certains dirigeants qui on peut pas s'empêcher d'identifier. C'est pas le but, là. On s'intéresse aux phénomènes, et puis ces gens-là sont pratiquement pas reconnaissables, à moins. Mais dans la communauté, des choses qui sont connues, là, communément connues. Mais cette relation-là avec le Québec, d'extrême grande proximité, a fait en sorte qu'à l'intérieur, à un moment donné, là, le rapport avec l'histoire, le rapport avec la vision du monde, la philosophie québécoise, en est venu à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Évidemment, dans nos familles, dans nos institutions aussi. Là. Puis jusqu'en arrivant à une idée aujourd'hui qui est défendue par certains qu'il n'y en a plus de différence. Et puis pour moi, c'est très dangereux. Puis ça, c'est aussi derrière les discours sur la réconciliation. On se réconcilie, on efface les différences et tout ça. Mais ça se fait toujours au détriment des conceptions Innu et de la philosophie Innu et de la vision Innu du monde, parce que le système est structuré pour faire en sorte que si vous voulez continuer d'exister, ben il faut abandonner ce qui est le plus sacré pour vous, et puis il faut s'anéantir pour pouvoir continuer d'exister. Il n'y a pas d'autre voie possible. Alors, c'est pour ça que c'est extrêmement problématique. Mais d'avoir une critique de la culture québécoise et de sa représentation des Inuits et de leur souveraineté, ça me semblait inévitable. Et dans les récits que les gens ont fait de la guerre du saumon, malheureusement, il y a des récits de racisme qui sont liés avec le nationalisme et tout. Je sais que c'est pas populaire de parler de ça au Québec, mais je le fais pas avec plaisir, mais c'était nécessaire de le faire, de le dire, regardez, oui, il existe un racisme profond et qui remonte à loin. Et puis, comme il y en a un au Canada, comme il y en a un dans les institutions canadiennes qui ont été érigées par Johnny McDonald. Alors, oui, il y en a au Canada, mais il y en a aussi au Québec, et c'est nécessaire de regarder en face, au-delà des discours romantiques ou je dirais de la fragilité au Québec là, par rapport aux critiques. Le fait que les gens se perçoivent comme étant des colonisés puis des oppressés et qu'ils en viennent à faire l'apologie un peu en disant que le colonialisme québécois est moins pire que le colonialisme que soit britannique ou espagnol ou peu importe. Ce qui, de mon point de vue, est faux parce que le colonialisme est le colonialisme.
Juste une question qui est sur le site des presses de Chicago et qu'on a quand même déjà abordé pas mal, mais qu'il y aurait sûrement d'autres choses à ajouter là-dessus, que j'aime personnellement beaucoup. Okay. What is cultural oblivion and psychological colonialism, and how are they affecting the capacity of indigenous peoples in Canada to actively resist systematic and territorial oppression by the state?
Ben oui, oui. Ouais. C'est qu'à un moment donné, avec le temps, la production de l'oubli culturel au Canada a une fonction. Comme les écoles résidentielles en ont une, ça fait partie d'un projet plus général d'effacement et de remplacement d'une civilisation par une autre. Avec le temps, lorsqu'on a perdu, par exemple, la mémoire de notre lien avec la Terre, on peut en arriver à voir cette Terre-là comme étant monnayable. On va plus facilement abandonner ce qui est sacré pour nous si on a perdu le récit ou si on ne se rappelle pas de la valeur de cette Terre-là et de notre obligation envers cette Terre-là. Ce qui fait en sorte qu'on va se faire offrir des pinottes, comme dans le cas des traités modernes. On va nous donner l'illusion qu'on nous donne quelque chose quand, au fond, on arrache ce qui nous reste de souveraineté ancestrale dans toute son inhérence, dans tout ce lien-là, qui n'est pas commodifiable, qui n'est pas monnayable avec la Terre. Et c'est dans ce sens-là que la mémoire, la relation avec le passé, cette mémoire culturelle-là et son affaiblissement a un lien directement avec le consentement. Comment peut-on consentir réellement à renoncer à ce à quoi on n'a pas conscience que ça nous appartient ou qu'on n'a pas conscience de... Ça affecte le consentement. Parce que comme on parlait encore de l'image de l'abus, mais c'est un petit peu ça. T'sais. On en vient à croire que finalement... On n'a pas de souveraineté ancestrale, puis c'est des choses qui n'existent pas vraiment. Alors, tout ce que le gouvernement va nous donner, ben ça va nous paraître comme un plus, quelque chose qui nous apporte, quand au fond, tranquillement, on tous les derniers clous de notre cercueil, là, comme peuple, et puis on en arrive à imposer un système de surpassion, puis de monnayage de la terre, ou de projets de développement industriel, ou pétrolier, ou minier, ou d'exploitation de la terre. Là. Alors, c'est pour ça que la conscience historique des premiers peuples a tout le temps été la menace numéro un à la stabilité du Canada, à la certitude des investissements, à la certitude des industries. Et la résistance, qui est liée justement avec cette conscience historique-là, a été l'ennemi numéro un. Et le système s'est érigé pour tuer toujours dans l'œuf cette résistance-là. Dans ce sens-là, la mémoire culturelle et les aspects psychologiques du colonialisme, c'est le genre de barbelé psychologique qui font en sorte qu'on en vient à croire qu'on n'a plus d'histoire, on en vient à croire qu'on n'a plus de souveraineté ancestrale ou qu'on est nous-mêmes, on n'est pas vraiment des peuples ou on n'a pas vraiment de dignité, ben c'est vraiment dans l'intérêt de l'État colonial et des industries et des grandes corporations. Ça nous affaiblit collectivement. Notre capacité de résistance, notre capacité aussi de continuer cette vision du monde-là et de la transmettre. Et on peut croire que le système fonctionne très bien parce qu'il est toujours en place et qu'il a produit des effets, hein, qui font en sorte que le Canada continue à se développer, les projets vont de l'avant, mais il y a toujours des formes de résistance qui reviennent, évidemment, qui continuent. Puis c'est ça qui nous semble central. Et ça va continuer à grandir et une grande partie de la société civile se range derrière ces mouvements autochtones qui portent une conscience et une vision de la Terre puis de l'être humain. Et puis c'est là qu'on est à un tournant. Et puis pour moi, il n'y a plus de question par rapport à ce que c'est conciliable et c'est pas conciliable parce que à un moment donné, on fait notre choix et puis on sait dans quelle direction on va.
Mais avant de conclure, j'aimerais lire un passage du livre que j'aime particulièrement beaucoup, qui lit comme ça. « The study of stories suggests that the group memories of the Salmon War are a load gun waiting for the right movement to revolt against the forces aiming at genocide and collective annihilation, and working internally to marginalize Inuit views and interpretation. In this sense, narrating the past has direct implication for the present. » Ça, c'est vraiment quand même nice.
Mais ça illustre toute la normativité de la mémoire, justement, et comment l'oubli est une grande illusion coloniale. Cette idée-là qu'on va oublier, tout ça, parce que comme l'eau se rappelle, comme la terre se rappelle, nous aussi, comme êtres humains, dans le fond, on peut pas se défaire des circonstances qui ont créé ce qu'on est devenu aussi.
Et ça nous rappelle au vivant et à la résistance.
En creusant un petit peu, on se rappelle qui on est, puis on se rappelle nos obligations, puis nos luttes, et on peut les actualiser.
Ça nous rappelle la résistance et au vivant.
Absolument.
L'idée de joindre aujourd'hui les entrevues et extraits d'entrevues avec Julie Burel et Pierre-Auras Tremblay nous vient de cette présentation qui aura lieu dans le cadre du Salon du Livre des Premières Nations, Kwawatonk, donc Kwawatonk Salon du Livre des Premières Nations, le 25 novembre, 11h, rencontre avec Pierre-Auras Tremblay, animée par Julie Burel. Cette rencontre a lieu donc dans le Salon du Livre des Premières Nations entre le 25 et 29 novembre. Plein d'activités en ligne. C'est le seul Salon du Livre des Premières Nations dans ce qu'on appelle le Québec, et je crois bien que c'est le seul aussi dans ce qu'on appelle le Canada. Alors, ça soulève beaucoup, toujours beaucoup d'enthousiasme, mais c'est une invitation à venir. Vous pouvez trouver toute l'information sur Kwawatonk, Salon du Livre des Premières Nations. Kwawatonk, Kwahiatonk, Salon du Livre des Premières Nations.
The following is a previously broadcast program.
On regardera un peuple uni et debout, fort de la force d'un être. Mes champs de paix seront la sève de ma survivance.
Contagious virus, but we can keep it from spreading without having to keep ourselves from seeing others. When you bring your friends home or to a chalet, it means a maximum of 10 people keeping a 2-meter distance, using individual plates and glasses and not sharing things, washing your hands regularly for at least 20 seconds, and cleaning shared surfaces. It means keeping each other safe. The virus is still here. Let's continue to protect ourselves properly.
A message from the Gouvernement du Québec.
At home, at a friend's place, and before entering a store, I wash my hands as soon as I can. I do it to protect the ones I love, my grandson, my husband, so I can continue to have people over this summer and enjoy weekends camping with my family. Because COVID-19 is still around, let's keep at it. Let's continue to properly protect ourselves. We're fighting the virus, so take a stand. Wash your hands.
All against one. All against COVID-19. A message from the Gouvernement du Québec.
Skinny Bob, go. Do this. Give it up. Yeah.